Alphonse Daudet, Le Nabab, chapitre 15. Mémoire d'un garçon de bureau à l'antichambre. Grande fête samedi dernier, place Vendôme. En l'honneur de son élection, M. Bernard Gensoulet, le nouveau député de la Corse, donnait une magnifique soirée avec municipaux à la porte, illumination de tout l'hôtel et 2000 invitations lancées dans le beau Paris. J'ai dû, à la distinction de mes manières, à la sonorité de mon organe, que le président du conseil d'administration avait pu apprécier aux réunions de la caisse territoriale, de figurer à ce somptueux festival où, 3 heures durant, debout dans l'antichambre, au milieu des fleurs et des tentures, vêtu d'écarlate et d'or, avec cette majesté particulière aux personnes un peu puissantes, mes mollets à l'air pour la première fois de ma vie, j'envoyais comme un coup de canon dans les 5 salons en enfilade le nom de chaque invité, qu'un suisse étincelant saluait chaque fois du « bing » de sa hallebarde sur les dalles. Que d'observations curieuses j'ai pu faire encore ce soir-là, que de saguis plaisantes, de ladzi de haut goût échangés entre les gens de service sur tout ce monde qui défilait. Ce n'est pas toujours avec les vignerons de mon bar que j'en aurais entendu d'aussi drôle. Il faut dire que le digne monsieur Barreau nous avait d'abord fait servir à tous, dans son office rempli jusqu'au plafond de boissons glacées et de victuailles, un linge solide, fortement arrosé, qui mit chacun de nous dans un état de bonne humeur, entretenu toute la soirée par les verres de punch et de champagne sifflés au passage sur les plateaux de la desserte. Les patrons, par exemple, ne paraissaient pas aussi bien disposés que nous. Dès 9 heures, en arrivant à mon poste, je fus frappée de la physionomie inquiète, nerveuse, du nabab, que je voyais se promener avec monsieur de Géry, au milieu des salons allumés et déserts, causant vivement et faisant de grands gestes. « Je le tuerai, » disait-il, « je le tuerai !» L'autre essayait de le calmer. Ensuite, madame parut, et l'on causa d'autre chose. Magnifique morceau de femme que cette Levantine, 2 fois plus forte que moi, éblouissante à regarder avec son diadème en diamant, les bijoux qui chargeaient ses énormes épaules blanches, son dos aussi rond que sa poitrine, sa taille serrée dans une cuirasse d'or vert qui se continuait en longues lames tout le long de sa jupe raide. Je n'ai jamais rien vu d'aussi imposant, d'aussi riche. C'était comme un de ces beaux éléphants blancs porteurs de tours dont nous entretiennent les livres de voyage. Quand elle marchait, péniblement appuyée au meuble, toute sa chair tremblait, ses ornements faisaient un bruit de ferraille. Avec ça, une petite voix très perçante et une belle figure rouge qu'un négrillon lui rafraîchissait tout le temps avec un éventail de plumes blanches, larges comme une queue de paon. C'était la première fois que cette paresseuse et sauvage personne se montrait à la société parisienne, et M. Gensoulet semblait très heureux et très fier qu'elle eût bien voulu présider sa fête, ce qui du reste ne donna pas grand mal à la dame, car, laissant son mari recevoir les invités dans le premier salon, elle alla s'étendre sur le divan du petit salon japonais, calé entre 2 piles de coussins, immobile, si bien qu'on l'apercevait de loin tout au fond, pareil à une idole, sous le grand éventail que son nègre agitait régulièrement comme une mécanique. Ces étrangères vous ont un aplomb. Tout de même, l'irritation du nabab m'avait frappée, et voyant passer le valet de chambre qui descendait l'escalier 4 à 4, je l'attrapais au vol et lui glissais dans le tuyau de l'oreille. « Qu'est-ce qu'il a donc votre bourgeois, monsieur Noël ?»« C'est l'article du messager !» me fut-il répondu. Et je dus renoncer à en savoir davantage pour le moment, un grand coup de timbre annonçant que la première voiture arrivait, suivie bientôt d'une foule d'autres. Tout à mon affaire, attentionné à bien prononcer les noms qu'on me donnait, à les faire ricocher de salon en salon, je ne pensais plus à autre chose. Ce n'est pas un métier commode d'annoncer convenablement des personnes qui s'imaginent toujours que leur nom doit être connu, le murmure en passant du bout des lèvres, et s'étonne ensuite de vous l'entendre écorcher dans le plus bel accent, vous en voudrez presque de ces entrées manquées, enguirlandées de petits sourires, qui suivent une annonce mal faite. Chez M. Gensoulet, ce qui me rendait la besogne encore plus difficile, c'était cette masse d'étrangers, tous ces gypsiens, persans, tunisiens. Je ne parle pas des Corses, très nombreux aussi ce jour-là, parce que, pendant mes 4 ans de séjour à la territoriale, je me suis habitué à prononcer ces noms ronflants, interminables, toujours suivis de celui de la localité. Paganetti de Porto Vecchio, Bastelica de Bonifacio, Paianacci de Barbicaglia. Je me plaisais à moduler ces syllabes italiennes, à leur donner toute leur sonorité, et je voyais bien aux airs stupéfaits de ces braves insulaires combien ils étaient charmés et surpris d'être introduits de cette façon dans la haute société continentale. Mais avec les Turcs, ces pachas, ces baies, ces effendis, j'avais bien plus de peine, et il dut m'arriver de prononcer souvent de travers. Car M. Jean Soulet, à deux reprises différentes, m'envoya dire de faire plus attention aux noms qu'on me donnait, et surtout d'annoncer plus naturellement. Cette observation, formulée à haute voix devant l'antichambre avec une certaine brutalité, m'indisposa beaucoup, m'empêcha, en ferais-je l'aveu, de plaindre ce gros parvenu quand j'appris au courant de la soirée que de cruelles épines se glissaient dans son lit de rose. De 10h30 à minuit, le timbre ne cessa de retentir, les voitures de rouler sous le porche, les invités de se succéder, députés, sénateurs, conseillers d'État, conseillers municipaux qui avaient bien plus l'air de venir à une réunion d'actionnaires qu'à une soirée de gens du monde. À quoi cela tenait-il? Je ne parvenais pas à m'en rendre compte, mais un mot du Suisse Niklaus m'ouvrit les yeux. « Remarquez-vous, monsieur Passageon, me dit ce brave serviteur, debout en face de moi, la hallebarde au poing, remarquez-vous comme nous avons peu de dames ?» C'était cela, pardieu, et nous n'étions pas que nous deux à faire la remarque. À chaque nouvel arrivant, j'entendais le nabab, qui se tenait près de la porte, s'écrier avec consternation de sa grosse voix de Marseillais enrhumé. « Tout seul ?» L'invité s'excusait tout bas. Sa dame un peu souffrante, bien regrettée certainement. Puis il en arrivait un autre, et la même question amenait la même réponse. À force d'entendre ce mot de « tout seul », on avait fini par en plaisanter à l'antichambre. Chasseurs et valets de pied se le jetaient de l'un à l'autre quand entrait un invité nouveau, tout seul. Et l'on riait, on se faisait du bon sang. Mais M. Niklaus, avec sa grande habitude du monde, trouvait que cette abstention à peu près générale du sexe n'était pas naturelle. « Ça doit être l'article du messager », disait-il. Tout le monde en parlait de ce matin d'article, et devant la glace entourée de fleurs où chaque invité se contrôlait avant d'entrer, je surprenais des bouts de dialogue à voix basse, dans ce genre-ci. « Vous avez lu ? C'est épouvantable ! Croyez-vous la chose possible ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai préféré ne pas amener ma femme. J'ai fait comme vous. Un homme peut aller partout sans se compromettre, certainement, tandis qu'une femme. » Puis ils entraient, le claque sous le bras, avec cet air vainqueur des hommes mariés que leurs épouses n'accompagnent pas. Quel était donc ce journal, cet article terrible, qui menaçait à ce point l'influence d'un homme si riche? Malheureusement, mon service me retenait. Je ne pouvais descendre à l'office, ni au vestiaire, pour m'informer, causer avec ses cochers, ses valets, ses chasseurs, que je voyais debout au pied de l'escalier, s'amusant à brocarder les gens qui montaient. Qu'est-ce que vous voulez? Les maîtres sont trop esbrouffeurs aussi. Comment ne pas rire en voyant passer l'air insolent et le ventre creux, le marquis et la marquise de Boisléry, après tout ce qu'on nous a conté sur les trafics de monsieur et les toilettes de madame? Et le ménage Jenkins, si tendre, si uni, le docteur attentionné mettant à sa dame une dentelle sur les épaules de peur qu'elle s'enrhume dans l'escalier, elle souriante et attifée, tout en velours, long comme ça de traîne, s'appuyant au bras de son mari, de l'air de dire « comme je suis bien !» Quand je sais, moi, que depuis la mort de l'Irlandaise, sa vraie légitime, le docteur médite de se débarrasser de son vieux crampon pour pouvoir épouser une jeunesse, et que le vieux crampon passe les nuits à se désoler, à ronger de larmes ce qui lui reste de beauté. Le plaisant, c'est que pas une de ces personnes ne se doutait des bons quolibets, des blagues qu'on leur crachait dans le dos au passage, de ce que la queue des robes ramassait de saleté sur le tapis du vestibule. Et tout ce monde-là vous avait des mines dédaigneuses à mourir de rire. Les deux dames que je viens de nommer, l'épouse du gouverneur, une petite Corse à qui ses gros sourcils, ses dents blanches, ses joues luisantes et noires en dessous donnaient l'air d'une auvergnate débarbouillée, bonne patte, du reste, et riant tout le temps, excepté quand son mari regarde les autres femmes, plus quelques levantines au diadème d'or ou de perles, moins réussies que la nôtre, mais toujours dans le même genre, des femmes de tapissiers, de joailliers, fournisseurs habituels de la maison, avec des épaules larges comme des devantures, et des toilettes où la marchandise n'avait pas été épargnée. Enfin, quelques ménages d'employés de la territoriale, en robes pleurardes, et la queue du diable dans leur poche, voilà ce qui représentait le beau sexe de la Réunion. Une trentaine de dames noyées dans un millier d'habits noirs, autant dire qu'il n'y en avait pas. De temps à autre, Cassagne, Laporte, Grand Varlet, qui faisait le service des plateaux, nous mettait au courant de ce qui se passait dans les salons. « Oh, mes enfants, si vous voyez ça, c'est d'un noir, c'est d'un lugubre. Les hommes ne démarrent pas des buffets. » Les dames sont toutes dans le fond, assises en rond, à s'éventer sans rien dire. La grosse ne parle à personne. Je crois qu'elle pionce. C'est monsieur qui fait une tête. Allons, père Passageon, un verre de Château-la-Rose, ça vous donnera du ton. » Elle était charmante envers moi, toute cette jeunesse, et prenait un malin plaisir à me faire les honneurs de la cave, si souvent et à si grands coups, que ma langue commençait à devenir lourde, incertaine, et, comme me disaient ces jeunes gens dans leur langage un peu libre, « Mon oncle, vous bafouillez !» Heureusement que le dernier des effendis venait d'arriver et qu'il n'y avait plus personne à annoncer, car j'avais beau m'en défendre chaque fois que je m'avançais entre les tentures pour jeter un nom à la grande volée, je voyais les lustres des salons tourner en rond avec des centaines de milliers de lumières papillotantes et les parquets partir de biais glissants et droits comme des montagnes russes. Je devais bafouiller, c'est sûr. L'air vif de la nuit, quelques ablutions à la pompe de la cour eurent vite raison de ce petit malaise, et quand j'entrais au vestiaire, il n'y paraissait plus. Je trouvais nombreuses et joyeuses compagnies autour d'une marquise, au champagne, dont toutes mes nièces en grande tenue, cheveux bouffants et cravates de ruban rose, prenaient très bien leur part malgré des cris, de petites grimaces ravissantes qui ne trompaient personne. Naturellement, on parlait du fameux article, un article de Mouessard, à ce qu'il paraît, plein de révélations épouvantables sur toutes sortes de métiers déshonorants qu'aurait fait le nabab, il y a 15 ou 20 ans, à son premier séjour à Paris. C'était la troisième attaque de ce genre que le messager publiait depuis 8 jours, et ce gueux de Mouessard avait la malice d'envoyer chaque fois le numéro sous bande, place Vendôme. Monsieur Jean Soulet recevait cela le matin, avec son chocolat, et à la même heure ses amis et ses ennemis, car un homme comme le nabab ne saurait être indifférent à aucun, lisait, commentait, se traçait vis-à-vis de lui une ligne de conduite pour ne pas se compromettre. Il faut croire que l'article d'aujourd'hui était bien tapé tout de même, car Jean Soulet le cocher nous racontait que tantôt au bois son maître n'avait pas échangé 10 saluts en 10 tours de lac, quand ordinairement il ne garde pas plus son chapeau sur sa tête qu'un souverain en promenade. Puis, lorsqu'ils sont rentrés, voilà une autre affaire. Les 3 garçons venaient d'arriver à la maison, tout en larmes et consternés, ramenés du collège Bourdaloue par un bon père, dans l'intérêt même de ces pauvres petits, auxquels on avait donné un congé temporaire pour leur éviter d'entendre au parloir ou dans la cour quelques méchants propos, une allusion blessante. Là-dessus, le nabab s'est mis dans une fureur terrible qui lui a fait démolir un service de porcelaine. Et il paraît que sans monsieur de Géry, il serait allé tout d'un pas casser la tête au Mouessard. « Et qu'il aurait bien fait, » dit monsieur Noël, entrant sur ces derniers mots, très animé lui aussi. « Il n'y a pas une ligne de vrai dans l'article de ce coquin. Mon maître n'était jamais venu à Paris avant l'année dernière. De Tunis à Marseille, de Marseille à Tunis, voilà tous ses voyages. Mais cette fripouille de journaliste se venge de ce que nous lui avons refusé 20 000 francs. » « En cela, vous avez eu grand tort, » fit alors monsieur Francis, le Francis à Montpavon, ce vieil élégant dont l'unique dent branle au milieu de la bouche à chaque mot qu'il dit, mais que ces demoiselles regardent tout de même d'un œil favorable, à cause de ses belles manières. « Oui, vous avez eu tort. Il faut savoir ménager les gens, tant qu'ils peuvent nous servir ou nous nuire. Votre nabab a tourné trop vite le dos à ses amis après le succès, et de vous à moi, mon cher, il n'est pas assez fort pour se payer de ces coups-là. » Je crus pouvoir prendre la parole à mon tour. « Ça c'est vrai, monsieur Noël, que votre bourgeois n'est plus le même depuis son élection. Il a adopté un ton, des manières. Avant-hier à la territoriale, il nous a fait un branle-bas dont on n'a pas d'idée. On l'entendait crier en plein conseil. « Vous m'avez menti, vous m'avez volé et rendu voleur autant que vous. Montrez-moi vos livres, tas de drôles. » S'il a traité le Mouessard de cette façon, je ne m'étonne plus que l'autre se venge dans son journal. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il dit cet article ?» demanda monsieur Barreau. « Qu'est-ce qu'il a lu ?» Personne ne répondit. Plusieurs avaient voulu l'acheter, mais à Paris, le scandale se vend comme du pain. À 10 heures du matin, il n'y avait plus un numéro du messager sur la place. Alors, une de mes nièces, une délurée s'il en fut, eut l'idée de chercher dans la poche d'un de ces nombreux pardessus qui garnissaient le vestiaire, bien aligné dans des casiers. Au premier qu'elle atteignit, « Le voilà !» dit l'aimable enfant d'un air de triomphe, en tirant un messager froissé au pli comme une feuille qu'on vient de lire. « En voilà un autre !» cria Tom Boisléry, qui cherchait de son côté. « Troisième par-dessus, troisième messager. Et dans tous, la même chose, fourré au fond des poches ou laissant dépasser son titre. Le journal était partout comme l'article devait être dans toutes les mémoires, et l'on se figurait le nabab là-haut, échangeant des phrases aimables avec ses invités, qui auraient pu lui réciter par cœur les horreurs imprimées sur son compte. » Nous rîmes tous beaucoup à cette idée, mais il nous tardait de connaître à notre tour cette page curieuse. Voyons, père Passageon, lisez-nous ça tout haut. C'était le vœu général, et j'y souscrivis. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais quand je lis haut, je me gargarise avec ma voix. Je fais des nuances et des fioritures, de telle sorte que je ne comprends rien à ce que je dis, comme ces chanteurs à qui le sens des phrases importe peu pourvu que la note y soit. Cela s'appelait « Le bateau de fleurs », une histoire assez embrouillée avec des noms chinois, où il était question d'un mandarin très riche, nouvellement passé de première classe, et qui avait tenu dans les temps un bateau de fleurs amarré tout au bout de la ville près d'une barrière fréquentée par les guerriers. Au dernier mot de l'article, nous n'étions pas plus avancés qu'au commencement. On essayait bien de cligner de l'œil, de faire le malin, mais franchement il n'y avait pas de quoi. Un vrai rébus sans image, et nous serions encore plantés devant si le vieux Francis, qui décidément est un matin pour ses connaissances de toutes sortes, ne nous avait expliqué que cette barrière aux guerriers devait être l'école militaire et que le bateau de fleurs n'avait pas un aussi joli nom que ça en bon français. Et ce nom, il le dit tout haut malgré les dames. Quelle explosion de cris, de « ah !» de « oh !» les uns disant « je m'en doutais », les autres « ça n'est pas possible !» Permettez, ajouta Francis, ancien trompette au 9e lancier, le régiment de Morat et de Montpavon, permettez. Il y a une vingtaine d'années, à mon dernier semestre, j'ai été caserné à l'école militaire, et je me rappelle très bien qu'il y avait, près de la barrière, un sale bastringue, appelé le Baljean-Soulet, avec un petit garni au-dessus et des chambres à 5 sous l'heure où l'on passait entre deux contredanses. « Vous êtes un infâme menteur !» dit Monsieur Noël, hors de lui. « Filou est menteur comme votre maître. Jean Soulet n'est jamais venu à Paris avant cette fois. » Francis était assis un peu en dehors du cercle que nous faisions tous autour de la marquise, en train de siroter quelque chose de doux parce que le champagne lui fait mal au nerf et puis que ce n'est pas une boisson assez chic. Il se leva gravement, sans quitter son verre, et, s'avançant vers Monsieur Noël, il lui dit d'un air posé. « Vous manquez de tenue, mon cher. Déjà l'autre soir, chez vous, j'ai trouvé votre ton grossier et malséant. Cela ne sert à rien d'insulter les gens, d'autant que je suis prévôt de salle et que, si nous menions les choses plus loin, je pourrais vous fourrer 2 pouces de fer dans le corps à l'endroit qu'il me plairait. Mais je suis bon garçon. Au lieu d'un coup d'épée, j'aime mieux vous donner un conseil dont votre maître pourra tirer profit. Voici ce que je ferai à votre place. J'irai trouver Moessard et je l'achèterai, sans marchander. Emmerling lui a donné 20 000 francs pour parler. Je lui en offrirai 30 000 pour se taire. Jamais, jamais, vociféra Monsieur Noël. J'irai plutôt lui dévisser la tête à ce scélérat de bandit. Vous ne dévisserez rien du tout. Que la calomnie soit vraie ou fausse, vous en avez vu l'effet ce soir. C'est un échantillon des plaisirs qui vous attendent. Que voulez-vous, mon cher? Vous avez jeté trop tôt vos béquilles et prétendu marcher tout seul. C'est bon quand on est d'aplomb, ferme sur ses jambes. Mais quand on n'a pas déjà le pied très solide et qu'on a le malheur de sentir Emmerling à ses trousses, mauvaise affaire. Avec ça, votre patron commence à manquer d'argent. Il a fait des billets au vieux Schwalbach et ne me parlez pas d'un nabab qui fait des billets. Je sais bien que vous avez des tas de millions restés là-bas, mais il faudrait être validé pour y toucher. Et encore quelques articles comme celui d'aujourd'hui, je vous réponds que vous n'y parviendrez pas. Vous prétendez lutter avec Paris, mon bon, mais vous n'êtes pas de taille, vous n'y connaissez rien. Ici, nous ne sommes pas en Orient, et si on ne tord pas le cou aux gens qui vous déplaisent, si on ne les jette pas à l'eau, dans un sac de cuir, on a d'autres façons de les faire disparaître. Noël, que votre maître y prenne garde. Un de ces matins, Paris l'avalera comme j'avale cette prune, sans cracher le noyau, ni la peau. Il était terrible, ce vieux, et malgré son maquillage, je me sentais venir du respect pour lui. Pendant qu'il parlait, on entendait là-haut la musique, les chants de la soirée, et sur la place les chevaux des municipaux qui secouaient leurs gourmettes. Du dehors, notre fête devait avoir beaucoup d'éclat, toute flambante de ces milliers de bougies, le grand portail illuminé. Et quand on pense que la ruine était peut-être là-dessous. Nous nous tenions là, dans le vestibule, comme des rats qui se consultent à fond de cale, quand le navire commence à faire haut sans que l'équipage s'en doute encore, et je voyais bien que laquais et filles de chambre, tout ce monde, ne serait pas long à décamper à la première alerte. Est-ce qu'une catastrophe pareille serait possible? Mais alors moi, qu'est-ce que je deviendrais? Et la territoriale? Et mes avances? Et mon arriéré? Il m'a laissé froid dans le dos, ce Francis.